Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
Avec vous, Jean-François Rode et toute la Procure, en fondement de l'émission, nous allons parler de Gustave Martelet et avec vous, Gérard de Lavernet, puisque vous venez présenter le livre que vous avez réalisé. J'ai très tôt été convaincu, repère d'une théologie existentielle, et c'est aux éditions jésuites. Alors, Gustave Martelet, c'est une figure importante de la Compagnie de Jésus, voire de l'Église, et aussi important, à mon avis, qu'un Varillon ou un Delubac. C'est une figure un peu oubliée, il est mort en 2014, il a enseigné à l'université grégorienne de Rome pratiquement toute sa vie, puis au Centre Sèvres à Paris, et il a participé au Concile Vatican II pour les chrétiens francophones d'Afrique, et il a cette phrase très, très forte parmi ses écrits, sans transmission, la religion ne serait qu'un mythe. Et on sent cette volonté, cet enthousiasme aussi à transmettre de façon quasiment infatigable. Alors, Gérard de Lavernet, comment vous, parce que vous n'êtes pas jésuite, vous n'êtes pas prêtre, comment vous êtes penché sur la figure de monsieur, du père Gustave Martelet?
Mais écoutez, c'est une longue histoire, puisque mes premiers contacts avec lui furent à la fin des années 60.
Rapprochez-vous du micro, qu'on vous entende bien.
À la fin des années 60, oui. Au début des années 70, pour des raisons personnelles, familiales, j'étais proche du père Théard de Chardin.
Ah ben voilà la jonction.
Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à Lyon, le père Martelet était un membre du jury de thèse, d'ailleurs avec le père de Lubac, sur le père Théard, oui. Dont on m'avait parlé, j'y étais allé, et ainsi a été mon premier contact. Ensuite, à Lyon, il organisait des réunions pour les jeunes, dont moi, que j'étais alors, pour précisément présenter la pensée du père Théard de Chardin, notamment le milieu divin. Et lorsque nous sommes venus à Paris, nous avons souhaité continuer le même exercice. Il n'a pas pu poursuivre totalement. Et à ce moment-là, je me suis greffé sur ses enseignements au Centre Sèvres. Et c'est comme ça que j'ai pris ensuite le rythme de ses cours. Et pendant une quarantaine d'années, finalement, j'ai suivi les cours du père Martelet, j'ai suivi les nombreuses conférences qu'il pouvait donner ici ou là, et les ai enregistrées, retranscrites, ce qui fait que une bonne partie de son œuvre, déjà il y a la vingtaine d'ouvrages, oui, qu'il a publiés, qui sont avec des livres tout à fait fondamentaux dans différents domaines, mais également un certain nombre de choses qui ne sont pas éditées, qui ne sont pas publiées, et dans lesquelles, donc, je me suis longtemps bien inspiré naturellement pour constituer ce petit ouvrage.
Enfin, c'est pas un petit ouvrage, mais alors, parce qu'on a une espèce de galaxie entre Théard de Chardin, Maurice Zindel, Martelet, enfin tout ça semble spirituellement assez lié finalement.
Oui, bah, le cœur, c'est tout de même le père Martelet, mais c'est vrai qu'il y avait une proximité très forte. Vous parliez. Bon, il peut y avoir le père de Lubac, le père Théard. Il se trouve que le père Martelet, je crois, d'ailleurs lui-même l'a dit, s'inscrit dans la ligne de ces grands jésuites du 20e, du 20e,
l'école de Fourvière.
Avec exactement l'école de Fourvière, qui au fond, c'est une génération de théologiens jésuites qui ont émergé à un moment après la crise du modernisme. Et se sont dit, il faut absolument pouvoir répondre au fond aux questions de la sécularisation et de l'incroyance auxquelles on était confrontés, et ils considéraient que dans la pensée chrétienne, je veux dire, on n'allait pas suffisamment au fond. Donc c'est tout ce souci d'inculturer finalement la foi et de répondre aux hommes de leur temps par la révélation, par les Écritures, par le retour au Père de l'Église. Et le Père Martelet s'inscrit absolument dans cette ligne. Quant à Zindel, que je connais beaucoup moins, j'ai lu un petit peu, mais que je connais beaucoup moins, je sais que le père Martelet faisait sienne une devise qu'il utilisait très souvent, une phrase de Zindel, disant que l'identité de Dieu, c'est de se vider, de se donner lui-même à l'autre dans l'amour. Autant, il était d'autant proche de lui-même qu'il était moins lui-même en se donnant. Et ça, c'est vraiment toute l'approche de l'altérité telle que le père Martelet la voyait, altérité dans la Trinité, qui également se déclinait dans la création et dans les rapports entre Dieu et l'homme par le Christ.
Donc votre livre, Gérard de Lavernet, Gustave Martelet, j'ai très tôt été convaincu, c'est en fait 40 ans de conférences dans lesquelles vous avez pioché Quel ordre logique vous avez voulu donner ?
Il y a plus que ça, parce que les textes que j'ai retranscrits, dont vous avez bien voulu évoquer à l'instant, font un peu plus de la moitié des textes.
D'accord.
Les autres, ce sont naturellement des textes qui ont été pris dans ces ouvrages, et ces ouvrages, les plus fondamentaux. Alors, pourquoi j'ai été très tôt convaincu ? C'est que le père Martulet, souvent, il y a plusieurs textes, commençait d'ailleurs comme ça, des conférences, des cours, en disant « j'ai très tôt été convaincu ». Alors que ce soit sur les rapports entre la foi et la culture, sur l'incarnation,
sur sa vocation.
Oui, tout à fait. Et donc, comme c'est un livre faisant parler le père Martulet, je me suis dit, il faut qu'il y ait un titre en jeu, en quelque sorte. Et donc, j'ai été très tôt convaincu, je crois que ça résume bien. Parfaitement bien. Parce qu'en réalité, pour parler de l'œuvre du père Martulet, il y a deux façons de faire. Mon point de vue, soit vous parlez de l'auteur, vous parlez de sa pensée avec tous les risques, de la mutiler ou de la trahir.
Oui.
Sauf à la maîtriser totalement.
Mais il est assez clair.
Bon, mais ou alors vous faites parler l'auteur, c'est le parti qui est pris ici, avec naturellement un choix de texte qui est subjectif par la force des choses, mais avec, je crois, le double exigence de fidélité à la pensée. Et justement, comme dit qu'il parlait un petit peu de tout, c'est une pensée, une œuvre très décloisonnée, comme vous avez pu voir. On parle de tout. Il y a de la philosophie, de la science, de la théologie, de l'histoire. On parle de la résurrection, de la jeunesse de l'homme, etc. Oui. Donc, on prend un petit peu tout. Mais je crois que lui, il avait une espèce de vision théologique un petit peu globalisante, si vous voulez. Donc, ne parler que d'un aspect, ça mutilerait sa pensée que lui, tout était en tout. Et c'est le choix de ses textes, en espérant simplement, et c'est ma deuxième exigence, que ce livre mette bien en évidence les caractéristiques, à mon sens, les plus fortes de la pensée du père Martulet et de son écriture et de sa plume aussi. Et d'ailleurs, pour permettre aux gens de découvrir et, si possible, leur donner le goût d'approfondir cette pensée qui, de mon point de vue, est de grande portée spirituelle.
Jean-François Rode.
Moi, je profiterai bien de votre longue fréquentation du père Martulet pour vous demander de nous parler aussi un peu d'abord de lui, comme personnalité. Moi, j'ai eu la chance pas de le connaître aussi bien que vous, mais d'écouter pas mal de ses conférences et de rencontrer quelquefois après les conférences. Et c'était un homme qui était toujours extrêmement attentif aux autres, très fraternel, on peut dire. Toujours très enthousiaste, toujours à l'écoute de celui qui venait un peu le consulter. Il rendait son abord facile. Il avait toujours envie de transmettre, comme on l'a dit déjà. Et c'était extraordinaire. C'était un grand monsieur, un grand théologien, un conférencier brillant, et il était d'une simplicité extraordinaire. Et je veux dire, c'est très significatif aussi de sa démarche, puisque ça vaut le coup quand même d'expliquer votre sous-titre. Il est repère pour une théologie existentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire en disant une théologie existentielle,
Oui, c'est une expression du père Martulet de surcroît. Voilà. D'abord, vous parlez de la personne parce que ça rejoint après la question sur la théologie existentielle. Je crois que vous avez utilisé un mot qui est tout à fait essentiel pour moi. Vous l'avez dit qu'il était enthousiaste. Et enthousiaste, je veux dire au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est Saint Paul par enthousiasme, ça veut dire qu'il est en Dieu avec Dieu en lui. Alors, il y a l'enthousiasme, il y a un petit peu l'allant de la personne, mais il y a aussi enthousiasme. Et je pense que le père Martulet était les deux. En un mot, je crois que c'était un homme habité. Et je pense qu'il explique bien des choses. Et vous parlez qu'il était sensible aux autres, c'est vrai qu'il avait un sens de l'autre. Je pense que l'altérité dont il parlait beaucoup dans son œuvre.
C'était pas un concept.
C'était un principe de vie pour lui. Et au fond, chez le père Martulet, je trouve qu'il y a une unité totale entre la vie et la pensée.
Ça, c'est la compagnie qui fait ça.
Oui, mais je suis pas sur tous les membres de la compagnie, mais on va dire un mot justement.
Oui, oui.
Entre la vie et l'œuvre, mais aussi entre la vie, entre l'homme et l'œuvre. Et quand je dis entre l'homme et l'œuvre, c'est que, mais je peux les énumérer sans les détailler, mais au fond, l'existence du père Martulet, d'une certaine façon, est le produit d'un certain nombre de rencontres, et donc son œuvre. D'abord, rencontre avec la mort, puisqu'il a été fils posthume, quand même, d'un père qui est mort en 1916. Et il a perdu deux frères, dont son jumeau, au début de la Seconde Guerre mondiale.
Il raconte que sa mère ne savait pas qu'elle était enceinte.
Exactement.
Elle a enterré son mari.
Ah oui, oui,
et
oui.
Elle
oui,
dit,
oui.
Il dit, c'est quelque chose qui m'a toujours laissé interrogatif.
Exactement. Ceci explique la place de la mort et de la souffrance dans son travail, dans son œuvre, dans sa réflexion, dans sa théologie, mais aussi et surtout l'insistance qu'il met à déployer ce qu'il appelle la victoire sur la mort, qui est
oui, son
premier livre, ah oui. Dans le Christ ressuscité.
Oui,
et donc, c'est par rapport à son expérience, cette confrontation à la mort, il a dit, c'est pas possible de rester là.
Mais Gérard de la Vernet, ce qui est incroyable dans l'œuvre de Gustave Martelet, c'est que ce n'est pas une pensée tragique. Alors qu'il est quand même issu d'une certaine tragédie de l'histoire. Mais on a l'impression que... on n'est pas du tout dans une pensée tragique, on est dans une pensée d'espérance. Et alors, comme vous le dites dans votre sous-titre, j'ai très tôt été convaincu, oui, une conviction très intime de la réalité, à la fois de l'amour de Dieu, de la résurrection et de l'amour du Christ, puisqu'il dit à un moment donné que Dieu se déverse tout son amour dans le Christ, c'est-à-dire finalement dans notre humanité.
Mais exactement. Mais alors là, c'est la deuxième rencontre, mais qui rejoint ça, qui explique naturellement son espérance, son enthousiasme, mmh. son optimisme, c'est sa rencontre du Christ.
Oui.
Sa rencontre personnelle du Christ. Ouais. Parce qu'il était dans une famille chrétienne, une mère très pieuse, à la messe, mais il a lu en 1934, c'est un jeudi saint, il a lu le mystère de Jésus
de Pascal.
Et là, pour lui, c'est une espèce de révélation. Et là, il dit, j'ai rencontré le Christ personnel, sa présence vivante dans l'Eucharistie. Bon. Et donc, à ce moment-là, il dit lui-même, je suis passé de Jésus de mon enfance, au Christ ressuscité, finalement, au Christ de Saint-Paul. Et c'est cette conversion au Christ, telle qu'il a senti, qui l'a conduit également à la compagnie de Jésus.
Oui, et il dit, je rentre dans la compagnie de Jésus pour connaître le Christ.
Voilà.
Hein, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne se pose pas 1000 questions en disant, tiens, je vais aller voir les dominicains ou les franciscains ou les bénédictins. Non, il va tout de suite voir la compagnie de Jésus.
Il a commencé par le séminaire.
Oui, bien sûr.
Il a passé une année, je crois une année, je ne veux pas dire de bêtises. Il est rentré en 1935 dans la compagnie, donc il avait 19 ans, mais il est passé une année. Et là, il ne se sentait pas. Et là, bon, on lui avait parlé de la compagnie, il est à la compagnie, et là, il a ce mot admirable, quand il dit, bon, la compagnie, j'étais sans rien, sans nom, sans culture, sans fortune, sans rien, c'est celui qui était là, mais j'étais moi, et j'ai compris que la compagnie était capable d'accueillir chacun pour lui-même. Alors ça, c'est la chose qui l'a absolument bouleversé et qu'il redira toujours. Et il dit également, la compagnie m'avait tout donné. Et m'avait tout donné, ça veut dire les exercices de Saint Ignace, ça veut dire le sens du Christ, et ça veut dire les évangiles. Voilà ce qu'il a absolument,
et puis une communauté.
Absolument construit. Et bien entendu, surtout que comme il n'avait pas de père,
oui.
Par la force des choses.
Il n'avait pas de famille.
Donc il l'a toujours pensé comme un bloc constitutif qui lui assurait une certaine stabilité, un certain fondement. C'est une espèce de seconde famille.
Oui, absolument.
Finalement. Et donc,
et
il doit tout à la compagnie et il a toujours été d'une extraordinaire reconnaissance avec lui. Et d'où, d'ailleurs, il était toujours très attaché à ce qu'il appelle la vocation christique de la compagnie, ça qui est un mot Théard christique. Mmh. Mais il était à la vocation christique de Théard, de la compagnie de Jésus, en disant qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, cette vocation s'impose, c'est-à-dire le devoir de confesser en pleine culture d'aujourd'hui la grandeur de celui que personne ne dépasse, mais qui n'humilie personne et qui accomplit chacun et le monde lui-même.
C'est joli.
Au fond,
il n'humilie personne.
Ça, c'est quelque chose qu'il a dit, donc c'est à la fin de sa vie, c'était pour les 70 ans de sa vie religieuse, jubilé religieux en 2010, et donc c'est dans l'homélie qu'il avait prononcé. Et il dit ses propos, et qui est vraiment au cœur. Quand il dit confesser en pleine culture d'aujourd'hui, c'est le cœur de toute sa démarche théologique.
Jean-François Rode.
Oui, parce que vous soulignez aussi beaucoup dans votre livre le caractère foisonnant de son travail, de son œuvre, Et donc la volonté justement de totaliser, d'unifier tout cela autour du Christ. C'est ça qui est Je me permets de citer une ligne de Michel Fédoux dans la préface de votre livre. Il dit... Sa perspective théologique pourrait être ainsi formulée. Une christologie ouverte sur l'humain, indissociable d'une anthropologie ancrée dans le Christ. C'est vraiment une formule en quelques mots. Hein.
Oui.
Une christologie ouverte sur l'humain, une anthropologie ancrée dans le Christ. Et c'est l'unité de ça, l'unification de ça, qui est l'œuvre de Martelet.
Oui.
Formidable.
Oui, oui. Non, je ne veux pas attribuer au Père Fédou ce qu'il n'a pas dit. Je ne sais pas s'il serait d'accord. Oui, oui. Mais ce n'est pas pour l'approprier. Mais je veux dire que le Père Fédou, je ne sais pas s'il s'exprimait de la même façon. En tous les cas, moi, je l'ai senti. Moi, je l'ai senti comme ça.
Ah oui, pardon. C'est dans votre introduction. Alors, je croyais que c'était dans la préface de Michel Fédou.
Ça n'a pas
d'importance. Pardon,
mais si. C'était de vous, Gérard de Lavernié. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Relisez la phrase parce qu'elle
va. Sa perspective théologique pourrait être ainsi formulée. Une christologie ouverte sur l'humain, indissociable d'une anthropologie ancrée dans le Christ. Oui. J'avais souligné tout de suite cette formule, parce qu'elle me paraissait très très centrale.
Elle résume tout, je dirais tout Martelet, parce que quels sont les grands sujets de Gustave Martelet?
Bon.
Il y a, il a écrit plusieurs volumes sur évolution et création.
La souffrance et la mort, on vient d'en parler.
La souffrance et la mort, sur Pierre Teilhard de Chardin et la messe sur le monde, mais on a aussi cette volonté de retourner à la fois dans l'histoire de l'Église, puisqu'il y a 2000 ans d'Église en question, la crise de foi, la crise du prêtre, etc., c'est aux éditions du Cerf.
Oui.
Et puis, il y a la question de la souffrance et de la mort.
Oui,
La volonté profonde de revenir dans l'Évangile et dans le texte profondément de l'Évangile.
Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que je mets en exergue du livre. Il dit « La liberté du théologien, c'est l'immensité de la révélation sur le mystère inépuisable du Christ. » C'est ce qu'il a en exergue.
C'est un gouffre ou un horizon, ça?
Il dit tout. Ça veut dire que ça permet toutes les audaces,
ben oui,
mais en même temps donne toutes les garanties de fidélité, je veux dire, à l'écriture et à la révélation.
Oui.
Lui ne se voit que comme étant quelqu'un qui va puiser, qui va chercher, qui va toujours approfondir la relation. À la fin de sa vie, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, de travailler un peu avec lui pour ses derniers livres. Et il me disait toujours, mon obsession, est-ce que j'ai été assez fidèle? Est-ce que je n'ai pas trahi le message? Voilà, c'était vraiment ça. Lui, l'écriture, toute l'écriture, rien que l'écriture.
Absolument.
S'inscrivant naturellement dans la tradition. Mais c'était vraiment ça. Et ça, ça lui permet tout ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, il s'était approprié le mot du père de Montcheuil, disant que, finalement, le dogme n'était pas secondaire, mais était second par rapport à la doctrine. C'est-à-dire que la doctrine, c'est la chaussée sur laquelle la théologie et la foi progressent. Le dogme, c'est le parapet pour éviter de se tromper.
Oui.
Voilà.
C'est une belle formule, oui.
Voilà, ça, c'est une formule du père de Montcheuil que le père Martelet répétait souvent et qui, je crois, montre bien dans quelle démarche il s'inscrit.
Jean-François Roth, il me semble qu'il faudrait parler du rapport du père Martelet avec le Concile Vatican II. Il a été un des plus jeunes experts au Concile.
Pour l'Afrique francophone.
Pour l'Afrique francophone, mais ça lui a permis d'assister, de participer à la totalité du Concile. Il n'était pas expert officiel, mais il était absolument là. Et donc, un de ses grands succès, qui l'a fait connaître d'ailleurs, c'est qu'il a passé aussi beaucoup de temps à donc expliquer le titre du livre, les idées maîtresses de Vatican II. Et donc ça a été un élément essentiel quand même dans la vie.
Il a quel âge au moment de Vatican II?
Écoutez, il est né en 1916. Le Vatican II, c'était, mettons, 1962.
Oui.
Donc, 4 et 1, ça, il avait 46 ans.
46 ans.
Il avait 46 ans.
Oui, donc il était déjà aguerri.
Oui. Et donc, il a écrit un livre tout à fait majeur que vous avez cité, oui, les idées maîtresses de Vatican II, et c'est un livre qui a fait date et qui sert de référence pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur.
J'ai lu dans une de vos notes, considéré dans ses idées maîtresses, Vatican II, c'est 1. Le jaillissement renouvelé des sources. Mm-hmm. On parlait déjà du retour aux sources,
oui,
comme caractéristique de l'école de Fourvière. 2. Une union paradoxale des contraires. Donc ça aussi, là, on voit bien le Gustave Martelet qui essaie toujours de rassembler plutôt que de diviser. Et troisièmement, un rajeunissement spirituel des signes. Bon, tout ça mériterait beaucoup d'explications, mais il a été un vrai pédagogue et qui, à mon avis, peut être encore très utile aujourd'hui, en particulier à la jeune génération qui n'a pas connu Vatican II. C'est une bonne façon d'entrer dans les perspectives et les textes du Concile Vatican II.
Je crois qu'il en parlait comme d'une nouvelle Pentecôte. C'est qu'en fait, pour lui, n'est toujours indissociable par la personne du Christ. Pour lui, l'Église, c'est l'Église du Christ. C'est pas d'abord une institution, c'est pas d'abord une affaire
c'est une
de
personne.
Clercs, de théologiens, d'exégètes. C'est la personne du Christ. À partir de ce moment-là, même face à tous les déboires de l'Église, aux griefs qui l'ont été faits, qui peuvent être faits légitimement à l'Église, et même face à ces errements que le père Martelet, mais avec beaucoup de lucidité, a su et pu dénoncer dans certains. Il est toujours resté, j'allais dire, d'un amour total pour cette Église, et tous les errements, les erreurs de l'Église, il en parlait joliment comme de la poussière sur la robe du Christ.
Oh, c'est joli. Donc, à lire absolument, j'ai très tôt été convaincu de Gustave Martelet, présenté par vous, Gérard de Lavernet, et maintenant les présentations de livres que vous avez glanés sur les tables de la procure, Jean-François Rode.
Alors, je voudrais reparler d'un homme formidable, d'un philosophe, Jean-Louis Chrétien,
qui
est mort récemment, et qui a laissé une œuvre très importante. Et aujourd'hui, on a la chance, toujours aux éditions de Minuit, d'avoir des textes réunis et présentés par Jérôme Laurent, sous le titre « Paroles et poésie ». Alors, je ne vais pas dire que Jean-Louis Chrétien est un auteur facile à lire, pas du tout. C'est un auteur, comment dire, exigeant. Il est extrêmement clair, mais il faut s'y mettre. C'est un philosophe de... Il réfléchit sur les concepts les plus importants, les plus ténus presque. Qu'est-ce que c'est que la fragilité ? Là, il réfléchit sur ce que c'est que la parole et la poésie. Si j'avais 2 secondes, je pourrais dire un peu comment il écrit. Est-ce que j'ai 2 secondes ?
Vous avez 15 secondes.
Qu'est-ce que c'est la lecture ? À cette question, la réponse n'est pas simple. D'une part, il semble que la lecture forme la seule véritable métempsychose selon laquelle nous circulons librement dans l'espace et le temps, entrant dans le sanctuaire le plus intime de la pensée des autres, vivant d'autres vies que la nôtre. Mais c'est aussi, d'autre part, toutes ces paroles gelées, endormies, pétrifiées, immobiles, sur un papier qui jaunit et s'altère, etc. C'est une écriture très, très simple, et surtout une culture exceptionnelle. Il a tout lu, et il cite très très bien les auteurs. Souvent, il éclaire donc sa pensée par cette citation, mais moi j'ai souvent fait l'expérience que la citation qu'il donnait faisait comprendre très bien l'auteur qu'il cherchait. Donc, je signale vraiment cette œuvre importante de Jean-Louis Chrétien, en particulier donc à partir de ce dernier livre, Paroles et poésie, aux éditions de Minuit.
Ok, un autre livre ?
Un autre livre qui date de quelques mois. Je l'ai laissé passer et j'ai eu un scrupule en le retrouvant dans ma bibliothèque. Un livre de Michel Quesnel,
oui,
qui s'appelle Paul et l'agir chrétien, chez Mediaspol. Michel Quesnel est un oratorien, il est un bibliste, il a été patron de l'Université catholique de Lyon, il continue toujours à écrire, et c'est un grand spécialiste de Saint Paul, un des meilleurs que nous ayons. Et là, il fait un livre pour, comme souvent, rectifier la mauvaise idée que nous avons de Paul.
Alors ça, on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir débat autour de Paul de Tarse.
Et là, il dit un peu, il cite une phrase un peu drôle, qu'il dit, beaucoup de gens disent que la conversion de saint Paul a donné un chrétien de plus, mais n'a pas fait un pharisien de moins. Donc on considère souvent que saint Paul est d'abord quelqu'un de l'obéissance au commandement. Il montre évidemment que c'est pas du tout ça. Il reprend tous ses textes. C'est magnifique. C'est Paul et l'agir chrétien, une morale sans commandement, point d'interrogation. C'est de Michel Quesnel chez Mediaspol.
Et alors, je ne veux pas rivaliser avec vous, Jean-François Rode, mais j'ai quand même pris sur les tables du libraire cette biographie de Virgile Tanas, Saint François d'Assise, en folio-biographie. Vous savez, j'aime beaucoup cette collection de folio-biographie. Et alors, ça vaut le coup de se pencher d'abord sur une biographie qui n'est pas une hagiographie, parce que c'est aussi les 10 ans cette semaine du pontificat du pape François. Donc ça vaut le coup de savoir pourquoi il s'est fait appeler François, et en allant à la racine et en allant voir qui était François d'Assise, et ben on s'aperçoit qu'il y a pas mal de... Enfin, on comprend mieux la proximité du pape François avec cet énorme saint qui nous parle beaucoup des sujets très actuels, naturellement, de la planète, mais aussi du partage des richesses, et aussi cette volonté de suivre le Christ coûte que coûte, même en va-nu-pied, tout en ayant été une sorte de prince qui aurait pu... vivre grandiosement de son argent personnel. Voilà.
Ou de celui de son père.
Celui de son père, absolument. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain, c'est vendredi, je recevrai Anne-Sophie Valu et Alexandre Rocamora pour parler des 7 de la Cité, une compagnie d'amateurs qui joue et qui fait beaucoup de bien chaque année au printemps. Et puis, ce sera la Saint-Patrick. Alors, whisky pour tout le monde et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore à Gérard de Lavernay pour ses choix de textes. J'ai très tôt été convaincu de Gustave Martelet qui nous plonge dans cette œuvre si importante et surtout qui nous fait côtoyer cette riche personnalité enthousiaste que vous nous transmettez aussi puisque, bien entendu, pas mal de gens ne l'ont pas connu, hélas. Voilà, bonne journée à tous et à demain.